Lost.
J'ai pas vu, mais je sais.
Marina qui est là. Ça va, Marina, pour ce premier Happy Hour?
Ça va très bien. Merci, Tom, de t'inquiéter de ma santé mentale et physique.
Non, je physique, je m'en fous. Et sur note sur 10, quelle note te donnes-tu à toi?
Avant ou après le quiz?
Ah.
Parce que la note n'est pas la même.
Je ne sais pas, à toi de voir.
Non, je donne 9,998.
Bravo. Donc Romain qui est là, ça va Romain?
Bah ça va et toi?
Ça va, tu suis même pas le match Monaco PSG.
Si, 1-0 pour Paris.
Ah, merde. But de Draxler, boum.
Sylvain, ça va?
Bonsoir.
Pour ce deuxième Happy Hour, tout se passe bien? T'as pu
bien, oui.
Parler de One Trill un petit peu autour de toi?
Exactement.
Et il manque Arnaud aussi.
Surtout pendant le Doctor Who.
Il a l'œil qui frétille quand tu dis One Trill, c'est vrai. Hein. T'es pas le même. Hein.
Il n'y a pas que l'œil.
Tu t'éveilles.
Arnaud. Bon, parlons bien.
Parlons peu, parlons bien.
Parlons sitcom un petit peu. Parce que là, on rentre dans le vif du sujet, donc le grand débat, longévité et héritage. On va parler un peu des genres de séries qui perdurent et qui peuvent aussi influencer certaines autres séries. Alors, on rigole bien devant les séries, ça arrive. Peut-être pas devant The Leftover ou Rectify. Mais on a des séries faites pour nous faire rire comme...
Comme La Fête à la Maison.
Non, en fait, en ce moment, je vois pas de séries drôles, du moins pas malgré elles. On nous parle souvent de Big Bang Theory. Mais pour les, si tu parles la bouche pleine, c'est dégueulasse.
C'est faux. Il y a It's Always Sunny in Philadelphia, par exemple.
Alors, on parle souvent de Big Bang Theory, mais pour les salaires des acteurs. On parle toujours de How I Met, mais pour sa fin ratée. On parle toujours de Friends, mais on se demande encore pourquoi, d'ailleurs. Alors, ma question est simple. Pour commencer, quelles sont les séries qui vous font ou vous ont fait rire, Marina?
M'ont fait rire donc, mon terminé. Chéri. Forcément terminé, non?
Peu importe. Te fait rire ou ton fait rire?
Friends, après, voilà, je reste très fan. Alors là, actuellement, moi, une série qui me fait rire, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui la regarde, c'est Speechless, moi, que j'aime beaucoup.
Oui, j'aime beaucoup. La meilleure comédie de l'année.
Ouais, que j'aime beaucoup. Minnie Driver, elle est exceptionnelle. J'aime beaucoup. Alors après, en sitcom, moi, ouais, je trouve que c'est un genre qui est de moins en moins réussi. Il n'y en a pas... toi, tu dis Soul and Sony, mais tu en as
c'est
d'autres
pas une
qui...
sitcom.
Non, parce là, pour l'instant, c'est les séries qui vous font rire.
Ah, de manière générale, qui me font...
Il y a eu Scrubs, pour ma part.
Ouais, Scrubs, qui était
Friends,
très bien.
Friends, Seinfeld.
Happy Endings.
Happy Endings.
Community.
Community.
How I Met Your Mother sur les 4 premières saisons.
Exactement.
Mom, qui te fait rire et pleurer.
Ouais.
Moi... J'ai You, Me and Her, je crois que c'est ça le titre.
Il faut parler dans le micro, Sylvain, je ne t'entends pas.
Ça passe sur Netflix.
Me her. Oui, c'est bien
You, Me and Her, c'est ça
Avec le frère de Demi Poehler.
Ouais. Ah. Greg Poehler.
D'accord, je ne savais pas. En tout cas, vraiment, c'est super drôle. C'est drôle, mais avec...
C'est très touchant.
Ouais.
C'est très vrai, c'est très sincère. J'ai beaucoup aimé.
Du coup, tout est dans le malaise, en fait, au niveau de l'humour. Et, au niveau de l'humour, hein, j'entends. Un peu comme Parks and Recreation, qui m'a fait mourir de rire. Parks and Recreation, ça met un petit peu de temps pour démarrer. Mais une fois qu'on a bien cerné tous les personnages, c'est hilarant. Après, j'ai noté... Powerless, parce que ça me fait rire sur les derniers épisodes.
Mais il n'y a que lui.
Blue Girl, où j'ai jamais autant
ri aux éclats. Blue Girl, oui, c'est très bien.
Grace and Frankie.
Oui.
Là aussi, c'est oui, touchant. Oui. Et
surtout pour parler de personnes qui n'ont pas de série. Les
sont vieux,
septagénaires.
Exactement. Et puis Friends et Scrubs, évidemment. Mais il y a aussi Roommates. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Ça passait sur ABC Family il y a quelques années. Et en fait, c'est très idiot, c'est très classique dans son fonctionnement. Mais en fait, j'ai aussi beaucoup, beaucoup rigolé, malgré le fait que ce soit vu et revu. Quoi.
Et j'ajouterais dans les vraiment nouveautés vraiment très récentes. Donc, il y a Speechless, Real O'Neill aussi. Et The Ranch et A Day at Life.
The Ranch, ça te...
Ah, énormément. Merci. Stéphane me comprendra. Mais The Ranch, oui. Il y a très peu de gens qui la regardent. Et pourtant...
J'ai envie de mettre Jane the Virgin aussi, qui est très drôle.
Ah, mais c'est...
Qui a ces moments vraiment très, très drôles.
Puis on peut citer Buffy aussi. Hein? C'était Buffy aussi.
Ah oui, Buffy, évidemment.
Alors, qu'est-ce qui vous fait rire? Est-ce que c'est les gags, les personnages
Ah, et moi, Wonderfalls, pardon, Wonderfalls qui me fait mourir de rire
mais c'est,
dans le micro.
C'est plein de trucs, en fait. C'est,
en fait, tout dépend
des situations, les gags, les situations. Les
bien sûr, ah c'est non, moi, plein, c'est, plein beaucoup de le, c'est beaucoup les dialogues, moi, qui me font rire. C'est beaucoup, beaucoup les. Par exemple, Buffy, c'est pas une série qui va te faire mourir de rire, genre à trouler par terre. Par contre, il y a
c'est la petite phrase.
Exactement, il y a vraiment le second degré.
Comme dans Justified, par exemple. Je sais pas si vous avez regardé Justified, mais il y a des dialogues du personnage principal joué par Timothy Olyphant qui sont en train de rire.
Ouais, voilà. Moi, c'est plus les dialogues vraiment genre quelqu'un qui va tomber ou tu vois un truc.
Non, c'est vraiment le
moi,
petite
c'est
phrase,
vraiment,
le petit
voilà,
dialogue.
La petite phrase et tout.
Et du coup, ça va avec un autre élément qui est le rythme aussi. Il faut qu'il y ait le bon rythme pour dire la bonne phrase.
J'ai oublié de le dire, mais un acteur que je trouve absolument énorme au niveau du timing comique, c'est Anthony Anderson qui joue dans Blackish et qui a fait des rôles un peu plus dramatiques avant. Mais je trouve qu'il a un timing comique parfait.
Qu'est-ce qu'on nous cite sur le chat, Laetitia?
Alors, sur le chat, on nous cite deux séries. La première, c'est Arrested Development qui a beaucoup de succès.
Là aussi, dans le malaise.
Et la deuxième, c'est Unbreakable Kimmy Schmidt.
Pareil, humour dans le malaise. Mais en fait, je pense qu'effectivement, ce qui nous fait rire, ça va dépendre vraiment de la série et du ton de la série. Typiquement, effectivement, Unbreakable Kimmy Schmidt, j'ai oublié la première série, Arrested Development et New Girl, c'est des séries qui jouent avec un humour hyper malaisant. Et en fait, ça en devient vraiment très très drôle. Et là, c'est pas du coup les dialogues qui rentrent en compte, c'est les personnages, les acteurs. Il faut que les acteurs soient très bons, sinon ça tombe complètement à plat.
Et puis je pense que dans les sitcoms comme ça, c'est plus propice aussi aux losers, que des
séries. Généralement des
losers. Que des séries plus longues de 45 minutes où effectivement c'est peut-être moins, ça se prête peut-être moins que
le rythme Power serait plus difficile
exactement
à tenir,
le rythme tu peux te permettre exactement un truc malaisant sur 22-24 minutes. Je pense que tu vois sur 45 minutes ça s'y prête moins.
Et j'ai envie de rajouter en caution française Kaamelott qui je trouve a des dialogues de génie, vraiment tout se joue sur les dialogues.
10% aussi ça joue aussi sur le malaise, justement. 10% est une série très drôle justement parce que certains de ses personnages se retrouvent dans des situations mais vraiment hyper dérangeantes et ça en est du coup vraiment très drôle.
Alors pour recentrer sur le débat, moi ce qui me faisait rire c'était Undateable parce que c'était vraiment dans le visuel, surtout dans le visuel. Chris D'Elia était magistrat, s'est arrêté l'année dernière après trois
mais
saisons.
Mais c'est comme Zach Braff qui joue beaucoup sur le physique et sur
moi
sur
c'est ça qui me fait rire.
Visage,
ouais, exactement.
Donc là vous avez cité quand même beaucoup de séries qui ne sont pas ou peu enregistrées devant un public.
Pas beaucoup,
Non,
vous m'arrêtez. Il y a eu aussi Matthew Mother, Friends,
The Ranch,
Fran Drescher aussi, je ne sais plus comment ça s'appelait là.
Elle a fait
très drôle,
Christine,
mais. L'autre, là, sa dernière avec son ex-mari.
Personne n'a vu. Là.
Ah, celle où, avec son mari divorcé.
Ah oui, Fran, je crois que c'est ça, avec Charles Gonneux.
Living with Fran, je crois. Ah non, ça c'est sa précédente. Je ne sais plus.
Bon, alors les séries comics sont désormais surtout.
Le Captain en somme de Tchèque, non?
Je crois, oui.
Bref, c'est pas grave, ça intéresse pas.
Tout le monde s'en fout de cette série.
Les séries comiques sont désormais surtout douces amères comme Mom, You're the Worst, ou ne sont plus des sitcoms, mais des comédies comme VIP, Kimmy Schmidt, New Girl. Nous avons eu des comédies comme The Office, Scrubs, Park and Rec, Arrested Development, sans public. Aux Emmy Awards, à part Big Bang, Mon Oncle Charlie et How I Met, il n'y a plus eu de vrais sitcoms avec public depuis 2004. Et Will and Grace et Tout le monde aime Raymond, que presque personne n'a vu en France. Les rares séries
même
enregistrées.
Même La Vie devant Soi, ou encore. Non, c'est pas ça, la série de Netflix, là.
Les rares séries enregistrées en public ont été des flops comme Undateable, ou pas si inaperçues comme Two Broke Girls, ou les sitcoms de CBS, dont j'ai eu la flemme de chercher les noms, de toute façon.
Mike and Molly,
par exemple.
Que personne n'a regardé.
Et qui a duré.
C'est vrai.
Alors pourquoi les sitcoms ne sont plus la crème de la crème des comédies? Que se passe-t-il?
Parce qu'il y a un problème de classicisme, je pense. Oui, mais Mom, c'est devant un public, non? Ou si c'est pas devant un public, c'est façon sitcom en tout cas.
Oui, il est derrière enregistré.
Mais il faut, en fait, je pense que les sitcoms comme ça classiques n'arrivent pas à se renouveler. Et c'est pour ça que je parle qu'il y a un problème de classicisme. Mom a su le faire par ses thèmes, et par le fait qu'elle fasse autant pleurer que rire. Il y a ce problème là de savoir faire un bon truc. Ils ont lancé par exemple il y a pas longtemps, il y a quelques saisons, The McCarthy's, sur une famille irlandaise, je crois. Enfin bref, ça n'a pas marché du tout. Ça a été annulé au bout de 13 épisodes parce qu'il y a ce problème-là de savoir renouveler le genre de la sitcom pure.
Ouais,
aujourd'hui, je pense que le format sitcom pur et dur, il est mal aimé des networks parce que c'est un format qui ne permet pas les récompenses. VIP, typiquement, c'est format sitcom, mais pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de réenregistré, il n'y a pas ce concept-là qui en fait une sitcom. Et grâce à ça, je pense, c'est pour ça qu'elle est autant nommée.
Ça contredit toutes les récompenses il y a 15 ans, ou Friends,
Will and Grace. Mais ça a changé, les temps ont changé.
Qu'est-ce qui a changé? C'est-à-dire que les sitcoms...
Les rires enregistrés ne font plus rire.
Est-ce que c'est les rires qui gênent?
Voilà, il faut ajouter autre chose. Tu prends Mom, ça marche très bien au niveau... pas au niveau d'audience, mais le public adore, les critiques adorent. Mais parce qu'il y a la composante émotionnelle en plus, parce que là, c'est plus juste une pure sitcom où avec que des rires, on t'ajoute aussi une partie avec beaucoup d'émotions. Très dramatique sur l'alcoolisme, la dépression, etc. Et donc ils ajoutent ça, et c'est pareil dans la série Netflix Au fil des jours. Pareil, ils ajoutent une dimension sociale et un peu dépressive par moment, où ils te parlent de la condition des Cubains et de leur vie aux États-Unis. Et ils sont obligés maintenant peut-être d'ajouter quelque chose. Pareil, je citais The Ranch tout à l'heure, ça, y a des rires enregistrés, ça fait très très old school, et ils ajoutent un discours sur les fermiers aux États-Unis, sur leur pauvreté, leurs difficultés du métier, et ils ajoutent une question politique, surtout à l'époque où l'année dernière, quand il y avait l'élection américaine, il y avait un débat derrière avec les démocrates, les républicains, et le fermier qui était hyper pauvre et qui en avait marre de cette situation, il se foutait de la gueule d'Hillary, et de ses propositions pour les fermiers, tout ça. Et donc, il y avait un discours derrière, sur un discours politique et sur la situation sociale de ces personnes-là.
Ouais, mais je trouve que les sitcoms, enfin même Friends ou quoi, il y avait quand même une dimension émotionnelle. Je pense que tu peux pas faire une série sans, où il n'y a rien que de l'humour, parce que l'humour, il y a toujours une part d'émotion derrière.
Non, c'est la part dramatique de Friends. Théorie,
c'est sûr. Mais par exemple, Speechless, si tu veux, oui, le Speechless, je pense, le héros, oui, il est handicapé ou quoi. Mais
Speechless, c'est pas la forme sitcom, c'est vraiment une comédie.
On parle vraiment du genre sitcom,
genre,
avec public et rire enregistré.
Ouais, ouais.
Est-ce que justement c'est pas un style, enfin un genre désuet qui n'a produit que très peu de réussite?
Je pense que
finalement.
C'est ça. Je pense que c'est peut-être il y a les temps.
C'est lié à notre belle famille, nous d'en faire les trucs un peu familiales.
Ouais, ouais, ouais. Fut un temps, CBS avait deux soirées dédiées à des sitcoms. C'était vraiment l'âge d'or. Aujourd'hui, on a le public a plus envie de ça. Le public a envie vraiment de séries qui soient dramatique, généralement, avec de l'humour, mais dramatique quand même, avec un format bien spécifique, etc. On a complètement remis en question le concept même de sitcom. Le public n'en veut plus. Enfin, je veux dire, si vraiment les gens voulaient davantage de sitcom, The Big Bang Theory s'effondrerait à la faveur d'autres nouveautés que lance CBS chaque année, sauf que la quasi-totalité des nouveautés de CBS sur les sitcoms ont été annulées au final. Donc ça montre bien que The Big Bang Theory, je pense que c'est encore la dernière vraie sitcom ultra old school finalement, qui fonctionne, et toutes les autres qui arrivent, elles ont effectivement, comme tu le disais, une dimension sociale, un plus qui fait que c'est plus vraiment une sitcom à l'état pur. Il y a un petit truc qui fait qu'il y a une espèce de, ça devient une sitcom de sans mêlée,
peut-être un peu plus des dramédies.
Voilà, exactement, on est plus dans le gag pour amener le gag. The Big Bang Theory, c'est encore ça.
Les seules vraies sitcoms, c'est sur ABC, sur Disney Channel, avec les genres...
Oui, voilà, parce que le public est jeune et que rien va le faire rire, en quelque sorte.
Après, peut-être que les auteurs aussi veulent aller plus loin que la sitcom et veulent vraiment aborder des thèmes, comme en parle Arnaud, des thèmes un peu plus profonds, un peu plus dramatiques que la simple sitcom.
Il faut laisser du temps au genre sitcom pour refaire encore un Friends, peut-être, ou pas?
Ben, le souci, c'est que le temps, là, maintenant, vu l'offre...
C'est d'argent.
Non, oui, puis vu l'offre qui actuellement, tu peux pas. Enfin, c'est compliqué de laisser le temps à une série de s'installer.
Mais attendez, je suis désolé, mais Tom a raison, parce que entre The Big Bang Theory et la fin de Friends, tu peux noter ça. Et ben, il y a quand même eu énormément de temps où justement les networks cherchaient un nouveau Friends. Et c'est CBS qui l'a trouvé avec The Big Bang Theory, qui a quand même eu du mal à s'installer au début.
Il y a eu How I Met Your Mother avant.
Les audiences n'ont jamais véritablement décollé. Elles décollaient grâce à The Big Bang Theory. La seule sitcom CBS qui a dépassé les 20 millions, c'est The Big Bang Theory. Donc, et elle n'avait pas besoin d'un programme qui lui permettait de faire mieux. Donc,
ouais, après The Big Bang Theory, c'est parce que ça a surfé aussi sur la culture geek qui commençait un peu à...
Qui est de moins en moins présente maintenant dans le sitcom.
Et tout, donc c'est ça aussi, parce qu'il n'y avait pas, donc ils avaient un boulevard devant eux, les scénaristes. Je pense que...
Je pense
que Friends, effectivement, si elle avait été diffusée là maintenant, je ne suis pas bien sûre, tu vois, qu'elle...
C'est ma prochaine question, donc très bien. Le point de chat, Laetitia.
Le point de chat, c'est que visiblement, les séries, les sitcoms, ça ne fait plus du tout rire le public. Ils sont nombreux à trouver que le format est daté, très daté. Et on a Phil Alex qui nous dit que ce qui marche maintenant, ce sont les formats très courts et qui cite Scène de ménage sur M6.
C'est vrai, c'est un short-com.
Mais aux États-Unis, il n'y a pas ça. Ça marche en France, mais aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de...
On ne va pas parler des sitcoms françaises non plus. Donc voilà, ma question, c'est pour conclure, parce qu'on est un petit peu en retard, mais on va rattraper un peu le temps. Friends est-elle toujours la sainte reine de la sitcom? A-t-elle vieilli?
Mais pour qui?
Non.
Parce que la sainte reine des sitcoms, ça peut être Seinfeld pour beaucoup aussi.
Je pense que
en France, évidemment, que c'est Friends.
Oui, mais à côté, il y a aussi une question d'époque. Le Seinfeld, effectivement, c'était
Seinfeld.
Game of Thrones, Seinfeld.
C'est ça. C'est une certaine époque des séries américaines. Mais il y a aussi, ensuite, ça a été Friends. Ensuite, ça a été The Big Bang Theory. Donc, effectivement, quand Tom dit qu'il cherche le nouveau Friends, le nouveau The Big Bang Theory, c'est donc pour la prochaine génération. Les millennials, eux, ils pensent The Big Bang Theory. Alors que
je pense pas qu'elle a
plein qui connaissent Friends.
Il y en a plein qui découvrent Friends là maintenant.
Oui, mais
je pense que The Big Bang Theory n'a pas l'aura d'un Friends, pas du tout.
Alors est-ce que How I Met était le digne héritier de Friends?
Alors moi,
pas dans la durée.
Alors sur les premières saisons,
ça peut y ressembler.
Sur les premières saisons, oui.
C'est très moderne.
Pas du tout. Ils sont perdus. Ah, exactement. Ils sont perdus. Barney a pris trop d'importance par rapport à Ted.
Ça, le problème, c'est que Big Bang et How I Met avaient basaient un peu plus sur Sheldon. Ils étaient dépendants de Sheldon et Barney, alors que Friends était dépendant quasiment de personne.
Oui. Non, c'était un groupe.
Je suis d'accord.
Ce Ross est devenu quand même presque le plus drôle vers la fin.
De toute façon, sur Big Bang Theory, on voit aujourd'hui, sur les deux dernières saisons, c'est très auto-centré sur
Sheldon.
D'où le spin-off,
évidemment, mais je ne suis même pas certain que le spin-off, qui va évidemment, du coup, être aussi une sitcom avec les réenregistrés, etc.
Non, ça sera single caméra.
Ah ouais?
Ah oui, mais est-ce qu'il y aura quand même des réenregistrés?
Non, ça sera comme Malcolm.
Non, single, il n'y a pas de réenregistré.
Bah dans ces cas-là,
c'est comme Malcolm.
Du coup, voilà. Donc, ce sont les mêmes.
Je pense que ce sont les mêmes créateurs du spin-off.
Et là, ils réalisent que ça va marcher.
En fait, c'est un bel aveu d'échec. C'est-à-dire qu'ils arrivent.
Ça montre l'évolution du genre et la disparition du multicam comme on connaît maintenant, enfin comme on a connu avant.
Donc Friends, toujours aussi drôle.
Je regarde des épisodes.
C'est multigénérationnel.
Et puis surtout, toutes les saisons sont disponibles dans HD sur Netflix.
Sur le chat, vous n'êtes pas d'accord du tout.
Ils trouvent que... Alors, on a Phil Alex qui nous dit Friends, j'ai jamais accroché.
Mais...
On a Lilira qui nous dit qu'elle n'a jamais aimé. Et Rachu Pichu qui dit que lui non plus.
Voilà, il y a des gens qui... Phil Alex est très jeune, donc il n'a pas connu Friends à l'époque. Mais voilà, c'est peut-être aussi l'évolution de l'humour. Peut-être que Friends est aussi très marqué par son époque. Peut-être pas au niveau de l'humour. C'est ni geek, c'est ni aussi moderne qu'How I Met, qui jouait quand même sur les flashbacks et tout, qui a une narration très, très moderne. Mais qui reste quand même sur les gags... Comme Friends, quoi.
Mais Friends avait quand même des dialogues.
Oui, il y avait des bons dialogues.
Il y avait des trucs de dialogue. Moi, il y a des phrases de Phoebe.
Peut-être parce que tout le monde l'a vu en VF, donc personne n'a ri.
Ne regardez pas. Les jeunes, si vous nous écoutez, ne prenez pas de drogue et ne regardez pas les séries en VF. C'est les deux conseils que je vous donne. Je pense que c'est ça le gros problème.
Déjà, les sitcoms aujourd'hui se vendent très mal à l'international parce que ça ne peut plus être diffusé aussi facilement qu'avant. Il n'y a plus le 20h10 de M6
tout à fait,
qui
ouais.
permettait. Bah, y a plus
alors, il existe le 20h10 pétante de Canal+.
Il existe le 20h10, c'est scène de ménage.
Non, et puis les
c'est scène de ménage et c'est quand même oui, du 25 pas... minutes regroupé
en série. Mais c'est pas, une série américaine comme Ma Famille d'abord, etc. Et, France 2 n'a plus non plus le 18h pour diffuser
oui,
Friends.
Y a plus vraiment de,
donc en fait, au-delà même de tout du concept de sitcom, c'est surtout que ces séries-là ne sont pas vendues à l'international. Et donc, du coup, les chaînes américaines n'en font plus parce qu'elles savent qu'elles ne vont pas réussir à le vendre.
Vu que c'est un marché global,
c'est diffusé à 11h30 sur Energy 12. Energy 12 l'achète pour rien du tout. Donc, forcément, CBS, il tire la gueule. Quoi.
Donc, les sitcoms, vous savez que le sitcom Notre Belle Famille, Nous d'Enfer, Madame et Servie, ça, c'était vraiment des cases historiques sur M6. On riait de ça, même en VF. Est-ce qu'on pourrait rire de ça maintenant? Je ne sais pas. Marier deux enfants aussi, c'était quand même très, très drôle.
C'était hyper à l'avant-garde. Hein.
C'était vraiment... Oui, c'est vrai.